Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode de Torréfaction. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur Geekzone avec notre revue de l'actualité, notre petite sélection de l'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Bonjour Fasquille.
Est-ce que ça va bien ?
Oui, tout va bien. Une très bonne semaine. Okay. Excellent. Pas de maladie, juste une voiture pétée, un Mac cramé la semaine dernière. Non, franchement, tout va bien.
C'est le retour de la loose.
Oui, alors est-ce que tu pourrais la reprendre ? Elle s'est perdue dans l'hexagone et je crois qu'elle cherche son maître.
Non, garde-la, moi j'en veux plus là, c'est bon. J'ai assez donné.
Putain, au secours. Donc, sinon, tout va bien.
Ok, très bien. Allez, on va attaquer tout de suite avec le gaming et on va parler d'un jeu développé dans mon plat pays, Flotsam.
Oh là là, ça me tue, ça. C'est toi qui m'apprends plus que c'est une team belge, parce que je n'avais pas vérifié avant d'enregistrer ce podcast, parce que nous sommes des professionnels.
Pajama Lama Games.
C'est un... Non, vas-y, redis le nom de la boîte, parce que les gens n'ont pas compris, là, je suis sûr, tu vois.
Pajama Lama Games.
Voilà, donc les lamas ont pas un pyjama. Hein. Enfin, voilà, c'est des gens qui savent... Rire, c'est une toute petite team de 4 qui fait un jeu sur un... Comment dirais-je ? Une thématique à la mode. Et vous allez voir qu'elle est à la mode parce que tout, juste après, je vais parler d'un jeu qui reprend exactement la même thématique, pas sous la même forme, mais vous allez comprendre. Et donc, quelle est cette thématique ? Cette thématique, c'est que bon, ça y est, hein, c'est la merde. Les glaçons fondus, la mer a monté. nous sommes tous dans la flotte. Il reste que quelques petits îlots et des gens à la dérive qui construisent en fait des villes flottante. Et donc Flotsam, c'est quoi ? C'est une sorte de mini city builder où il va falloir faire survivre tes petits gars. Quand je dis tes petits gars, c'est vraiment des petits. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Au début, tu commences avec 3 personnes. Le but du jeu, c'est d'arriver à survivre en faisant flotter à la dérive ta cité, si tu veux, entre différents coins de l'océan. Et puis, quand tu as terminé, tu reviens au début et tu vas pouvoir explorer d'autres chemins possibles. Pour ceux qui ont joué FTL, vous voyez sur la carte de FTL, vous avez plusieurs chemins possibles. Et ben, quand vous arrivez au bout de la map, en fait, vous revenez au départ pour pouvoir emprunter d'autres chemins. Sachant que votre cité peut dériver soit grâce à sa voile, et là les chemins sont obligatoires en suivant des vents si tu veux, soit tu as du pétrole que tu as chopé dans des îles abandonnées, etc. Et là tu vas pouvoir décider d'aller dans d'autres zones qui ne sont accessibles que si tu as de quoi alimenter tes moteurs en fait. Il faut savoir que le jeu donc vient de sortir en Early Access, il va rester en Early Access pendant un an, et là ils vont rajouter plein de choses, des quêtes, ils vont corriger plein de bugs, etc. Donc même en l'état... Moi, j'avais prévu d'y jouer 20 minutes pour en parler vite fait parce que j'adore l'interface et les graphismes. Je les trouve super mignons. Je trouve vraiment le look du jeu très réussi. Je me suis dit, je regarde 20 minutes et c'est bon, quoi. C'est un early access. J'ai pas y joué trop longtemps. Ça, c'était samedi à, je sais pas, 16h30, un truc comme ça.
Ça sent le gouffre temporel en approche.
Ouais, je me suis rappelé que ça serait pas mal de bouffer. Il devait être 21h30, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, c'est vraiment le type de jeu, si vous faites déjà du civilisation genre Just One More Turn comme on dit, ne vous approchez pas de ce genre de truc. C'est vraiment, même avec les bugs, même avec les problèmes qu'il y a actuellement sur cette version, ça va très très vite. Alors, j'explique vite fait le concept du jeu. C'est que comme vous démarrez vraiment avec une base hyper limitée et vos petits gars au départ, ils plongent dans l'eau pour ramasser du plastique et des planches de bois et tout ça pour construire les premiers bâtiments, et après il va falloir augmenter son arbre technologique, mais tout ça en jonglant avec des ressources qui vont être la bouffe, la flotte. Évidemment, on dérive sur l'océan, mais je vous rappelle que ça ne se boit pas, c'est un problème. Et d'ailleurs, il y a un super reportage sur l'eau sur Netflix actuellement, dans la série. En bref, allez le voir et après, tirez-vous une balle, bonne journée. vous allez voir, il y a des trucs où les êtres humains sont quand même une race supérieure, on est au top. Hein. Évidemment, le thème du jeu est complètement dans l'air du temps. Le but, ça va être d'essayer de pas faire en sorte que vos petits gars ne crèvent pas. Il y a une troisième ressource qui est tout bêtement la fatigue. Donc, il faut penser à leur faire des chambres, des petits lits qui flottent. Et après, quand vous aurez un peu plus de matériaux, vous pourrez leur faire des petites huttes trop sympas. Chaque élément va pouvoir commencer à être upgradé comme ça. Pour l'instant, il y a pas mal de petits problèmes. Je rappelle que c'est une team de 4 personnes qui fait ça. Donc, c'est déjà assez énorme ce qu'ils ont réussi à faire. C'est qu'il y a des des gens qui râlent un petit peu sur le placement, la façon dont on construit sa base, comment placer les éléments les uns par rapport aux autres, etc. C'est pas toujours très précis. On sait pas toujours quelle va être notre marge de manœuvre sur les prochains éléments, etc. Il y a des trucs comme ça qui peuvent être affinables et qui, à mon avis, vont l'être très rapidement. Ils ont déjà corrigé pas mal de trucs. Moi, j'ai eu un bug qui était extrêmement pénible, qui a déjà été corrigé, si je dis pas de bêtises, et que vous retrouverez dans la review de RPS que je link sur le biais du podcast, qui est que des fois vous avez vos mecs qui sont en train de crever de faim ou crever de soif plutôt, et ils passent tout leur temps à décharger un bateau qui est plein de poissons alors qu'ils ont pas faim du tout, ils ont juste soif et il y a plus personne pour s'occuper de faire de l'eau en fait en ce temps-là. Et normalement il y a des barres de priorité à chaque personnage, tu peux lui dire toi tu vas t'occuper en priorité de ça et ça et ça, et donc tu peux gérer au bout d'un moment, t'as une dizaine de personnages assez rapidement, donc il faut vraiment pouvoir assigner ses priorités, et si le jeu n'en tient pas compte, ça va vite être la merde. Donc ça c'est le genre de bug qui ne peut pas rester très longtemps, sinon effectivement ça va être poubelle. Mais bon, la Belgique c'est ce qui est fait, je pense qu'ils vont nous gérer ça très rapidement.
Flotsam, donc on va rester dans l'eau avec Buoyancy.
Ben oui, ça m'a fait marrer parce que du coup à la base moi je connaissais pas Flotsam, et puis j'ai reçu le communiqué de presse qui en parlait, j'ai commencé à voir les articles sur le net, et en fait juste avant j'avais lu sur un truc que tu connais pas qui s'appelle Canard PC. C'est un petit magazine fait par des mecs qui sont pas très connus, hein. Donc
j'ai jamais entendu parler.
Ouais, il y a un gars, il a jamais écrit d'article drôle de sa vie, qui s'appelle Agbou, qui a écrit un truc qui s'appelle donc un papier sur donc un jeu qui s'appelle Buoyancy, qui est fait par d'autres mecs qui ont de l'humour mais moins que nos Belges, puisqu'ils s'appellent Dev on a Boat. Donc les mecs, ils avaient une idée de faire un jeu avec des trucs qui flottent, donc ils avaient pas d'idée de boîte. Alors, ils ont fait les développeurs sur un bateau. Cette fois, c'est des Américains, beaucoup plus pragmatiques, tu vois.
C'est ça. Ouais.
Et on reste complètement dans le city builder flottant. C'est la même chose, sauf que là, on est beaucoup plus sur un truc un petit peu plus violent, c'est-à-dire qu'on va pouvoir armer la base et on va pouvoir se balader, et il va y avoir un côté guerrier qui est complètement absent de Flotsam, et c'est très bien que les deux soient pas du tout sur le même, en fait ils sont sur le même secteur sans l'être, c'est-à-dire que le look, etc., le design n'est pas du tout le même, et la façon de gérer le endgame est pas du tout la même chose.
Comme dirait l'autre, c'est deux salles, deux ambiances en fait, hein. T'as les Belges qui sont plutôt pacifistes et les Américains c'est genre nous on veut tout détruire, on est des guerriers.
Mais ça me rappelle la blague sur les porte-avions, tu sais déplacer, mais on est un phare. C'est, bah oui, c'est exactement ça, c'est eux, c'est là, tu finis, t'as un... Tu vois les screenshots d'Agbou, bah il a fait un porte-avions, hein. Enfin, je veux dire, il a fait un cuirassé à la fin, il fait venez les gars, moi je vous attends. Donc il a terminé l'alpha, on va dire qu'il avait plus grand chose à faire à la base, puisque là on est encore une fois dans de l'early access, et on est encore une fois dans un titre qui est en plein développement et sur lequel vous pouvez vous faire les crocs et donner votre avis, mais bon, effectivement, au bout de 4 heures, vous avez un peu fait le tour, et cette Flotsam, ça va être un petit peu pareil, et on est sur le même type d'embranchement, etc. Donc je voulais parler des deux. Moi j'ai pas eu le temps de jouer à Buoyancy, mais ça me faisait marrer d'en parler des deux back to back, comme ça vous pouvez aller voir directement l'article de CPC que j'ai linké aussi, et voilà, il y a un intertitre qui dit tout de chez notre ami Agbou qui appelle son jeu FTL sur mer. On est vraiment dans la même ambiance, mais graphiquement j'avoue que ma préférence va clairement à Flotsam. Après, en termes de gameplay, l'autre a l'air d'être un petit peu plus riche. On verra ce que ça donne dans un an, mais je pense qu'il y a de la place pour les deux, surtout s'il y en a un qui s'oriente à base de canons et de trucs un peu plus violents, on va dire, entre guillemets, alors que l'autre, c'est vraiment ambiance... Bon, bah toi, t'es mort de faim, c'est un peu triste, mais sinon, ça s'est fait avec une jolie musique et des jolis graphismes. Non, c'est pas très grave. Donc voilà, de toute façon, dans les deux cas, ça coûte que dalle. Buoyancy, c'est 11€, hein, donc si jamais ça se passe pas très bien, je veux dire, même les 4 heures seront rentabilisées, j'ai envie de dire. Donc vous pourrez voir tout de suite s'il y en a un qui vous explose vos horaires plus que l'autre. Mais bon, je confirme qu'il y en a un, on est quand même dans une ambiance un peu plus baston, alors que l'autre, c'est vraiment ambiance faut se démerder. Et voilà, je vous laisse regarder les vidéos. Il y a des vidéos dans les deux links que j'ai mis avec le biais du podcast, donc vous aurez directement un aperçu visuel de ce que ça donne.
Et puis des nouvelles de notre ami Apex Legends avec une saison 3 qui s'annonce.
Elle est annoncée, elle est sortie depuis mardi soir chez nous. Donc voilà, hein, il est l'heure d'y retourner, le battle pass, les trucs à farmer, les 100 niveaux à se taper, ouais, on est content. Voilà, donc je vous rappelle qu'évidemment, comme tous les jeux du genre, Apex essaye de vous enchaîner avec son battle pass pour aller grinder tous les soirs vos petits trucs. C'est pas pire que certains autres. train, mais je continue de pas être fan d'avoir du contenu qui est loqué comme ça derrière les heures de jeu en mode si tu viens pas, tu l'auras pas. C'est ça m'énerve. Mais bon, bref, ça m'énerve. En même temps, j'y joue parce que j'adore le gameplay, donc je suis quand même mal placé pour en dire beaucoup de mal. Qu'est-ce qui change en cette saison 3? Et ben beaucoup de choses. À commencer par la carte du jeu qui est complètement différente. Ils ont viré l'ancienne carte, ce qui est assez ballsy, tu vois, et ils en ont mis une nouvelle qui s'appelle World's Edge. Et cette nouvelle carte, elle a plein de particularités qui font grincer des dents ou pas, parce qu'en fait elle est très très dans la verticalité et il y a même un train qui se balade dessus. Alors sur le papier c'est hyper rigolo, t'as plein de bâtiments, tu peux te planquer, etc. Sur le côté gameplay, ça pose un petit problème parce que ça rend beaucoup trop fort un des personnages du jeu qui a un grappin, et comme Pipo le sait, quand t'as un grappin t'es surpuissant. Donc sur ce genre de map c'est un vrai problème. Donc le robot qui fait partie des classes disponibles dans Apex, bah lui il se balade dans les bâtiments beaucoup plus rapidement que plein de gens. Il a une facilité avec le train, parce que quand le train passe à proximité, comme le jeu gère, il y a un moteur physique à l'intérieur qui est quand même vraiment pas mal, bah il s'agrippe avec son grappin avec le train, il prend une vitesse de dingue et il traverse la moitié de la map en glissade.
D'accord.
Bon, donc voilà, ils ont pensé à plein de trucs rigolos, mais ils ont pas pensé jusqu'au bout, tu vois. Parce que toi, t'es comme un con avec ton personnage normal, tu dois monter les escaliers, t'es là genre, les gars...
comme dirait Hulk, too many stairs.
Exactement, toi t'es là genre, mais putain, mais c'est relou quoi. Donc bon, il y a ce petit problème. L'autre truc qui a été rajouté, c'est un nouveau personnage, donc une nouvelle légende qui s'appelle Crypto, qui est un coréen et qui a des drones de surveillance qui sont pas mal du tout, dans la mesure où ça permet de récupérer plein d'infos sur le positionnement des ennemis de beaucoup plus loin que ce qui était possible de faire avant. Et il a une décharge EMP qui va vider les boucliers des gars en face, ce qui est toujours bien pratique quand tu veux engager un fight. Il est en plus backé par il y a une vraie histoire avec un dessin animé, entre guillemets. Il y a une vraie vidéo qui était sortie, qu'on avait linkée sur notre Discord et sur notre forum à l'époque quand elle est sortie il y a une dizaine de jours, je crois, qui est très 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 bien réussie et qui met bien en scène les différents personnages, leurs pouvoirs, voir les relations qu'il y a, etc. Ce qui évidemment ne sert absolument à rien en jeu, mais ce qui vous donne un petit peu un background qui donne au titre une saveur particulière. C'est ce que fait depuis le début Blizzard avec notre ami Overwatch, et ça c'est c'est une technique éprouvée qui fonctionne très très bien. Voilà, donc Crypto, il est plutôt rigolo, il a un bon design. Maintenant, il apporte au jeu plein de choses qui sont malheureusement, je te dis, on a ce problème de balance avec la verticalité de la map qui fait que je sais pas, il va falloir qu'il fasse un truc, parce que là tout le monde, t'as toujours un robot dans chaque équipe, ce qui était déjà le cas très souvent, parce que cette histoire de grappin a toujours été très pratique, on va pas se mentir. Mais là ça atteint un sommet assez pénible. Donc voilà, je vous enverrai aussi le petit lien qui va bien pour avoir toutes les infos, tous les changements, parce qu'il y a pas que ça, ils ont modifié beaucoup de choses sur l'équilibrage des armes, les mode qu'on peut mettre sur certaines armes, s'il y a des trucs qui ont disparu, il y a des trucs qui sont nouveaux, ils ont changé les ultis de certains persos, etc. etc. Donc il y a eu quand même beaucoup beaucoup d'équilibrage, et le changelog, comme on dit chez les professionnels, n'est-ce pas, je pourrais vous le lire, mais bon... Enfin, après, il va s'endormir, le podcast va faire 3 heures, ça va être chiant. Donc voilà, je vais vous linker, ça ira très bien comme ça. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à passer sur le Discord en fin de soirée. Il y a souvent un mec qui s'appelle Cave qui joue de temps en temps sans rien dire. Donc,
souvent, oui.
Voilà, vous pouvez pinguer. Si vous ne me trouvez pas, je suis avec un mec qui s'appelle Titan sur PUBG. Car oui, nous rejouons à PUBG en ce moment.
Oula.
Il se passe des choses. C'est compliqué. C'est compliqué.
Allez, on passe du côté de la culture. Est-ce que tu connais un groupe qui s'appelle Gogo Penguin?
Mais j'espère qu'ils sont belges avec un nom pareil, parce que
non, tu vois, pas
après
du tout.
Les pyjamas machin là.
Non, ils sont britanniques, ils sont originaires de Manchester. C'est un trio en fait, composé du pianiste Chris Illingworth, du bassiste Nick Blacka et du batteur Rob Turner.
Avec les noms maintenant, effectivement, ils sont plus anglais qu'autre chose.
Voilà, c'est une formation qui est active depuis 2012. Moi, je les avais découverts en 2014 avec leur deuxième album qui s'appelait tout simplement V2.0. Alors, c'est quoi Gogo Penguin? C'est du progressive jazz. Donc, c'est une sorte de mélange entre des rythmes un peu breakbeat, de la musique classique, du trip-hop, du jazz, avec parfois des petits petite rythmique électronica et un petit piano minimaliste qui est quand même une constante dans tous leurs morceaux. En gros, ça ressemble assez fort à ce que pourrait faire Cinematic Orchestra dans une version un peu plus dépouillée. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment le jazz, donc
Not my tempo.
Donc, j'ai décidé d'en parler cette semaine. Ils sont signés depuis 2015 sur le label français de jazz Blue Note, et donc ils ont un nouvel EP qui sort tout bientôt, le 4 octobre prochain, qui s'appelle Ocean in a Drop, Music for Film. Alors, c'est une référence à une phrase d'un poète perse du 13e siècle qui s'appelait Rumi, que je ne connaissais pas du tout, et qui aurait dit « You are not a drop in the ocean, you are the entire ocean in a drop ». Bon, voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Alors, particularité du groupe, c'est qu'en fait, quand ils enregistrent leurs albums, ils le font toujours en groupe, donc pas prise par prise. Donc, ils enregistrent pas d'abord le piano, puis les rythmes, etc., et puis faire du mix en studio. Donc, c'est vraiment une espèce de session live, en fait, à chaque fois, ce qui donne une dynamique un peu différente à ce qu'on peut entendre dans le même genre sur d'autres albums. Ils seront d'ailleurs en concert à Paris le 24 octobre. Malheureusement, c'est déjà sold out. C'est au Café de la Danse. Donc, gardez un œil quand même si jamais il y a des gens qui veulent revendre leur place. Et plutôt que d'en parler encore pendant 10 minutes, je propose d'écouter un extrait donc de ce nouvel EP qui sort le 4 octobre, Ocean in a Drop, Music for Film. Et l'extrait s'intitule Timelapse City. Timelapse City, Gogo Penguin. On va parler cinéma et
on va rien parler du tout pour l'instant. Je voulais dire que la prochaine fois, ça va parler K-pop. Et tu vas voir, tu vas voir flou.
Non.
Moi, je vais vous mettre de la K-pop dans la section culture. Il y a pas de raison. Non, mais tu t'es vu avec ton jazz machin là ? Non. La prochaine fois, va y avoir du bip bip. T'es pas prêt. Hein.
Je vais préparer un son de tonalité de téléphone qu'on viendra accrocher. Tu sais, tu vas lancer le truc, c'est ça. Il y a plus personne.
Ce podcast est déjà terminé.
Donc, je disais qu'on allait parler cinéma. Et je vais avoir besoin de ton jingle, donc je te pique ton jingle de Jean-Pierre Caff.
Allez, go.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Alors pourquoi est-ce que j'ai demandé le jingle ? Pas tellement pour critiquer le film en fait, parce que bon, en soi, les mauvais films, on n'a pas spécialement envie d'en parler, on parle en général des choses qu'on aime bien. Mais là, je voulais quand même pousser un coup de gueule, parce que donc j'ai eu l'occasion d'aller voir Gemini Man au cinéma, en projection de presse. Donc Gemini Man, c'est quoi ? C'est le dernier film du réalisateur chinois Ang Lee, qui avait fait Life of Pi, et aussi le Hulk de 2003, dont on se souvient pour ses CGI catastrophiques. C'est un film avec Will Smith, Marie-Elizabeth Winstead et Clive Owen. Donc à la base, tu te dis, ça va, c'est un bon casting, ça devrait être pas mal. Film d'action donc qui raconte histoire d'un assassin qui bosse d'ailleurs toujours pour le compte du gouvernement, qui est un peu vieillissant et qui se retrouve tout à coup confronté à une version clonée de lui-même mais plus jeune. Donc ça c'est le pitch en gros. Donc je vous dévoile pas l'intrigue qui est assez nulle. C'est à chier, donc on va pas se mentir, hein, c'est vraiment très mauvais. Il fait 38% sur Rotten Tomatoes en ce moment, donc c'est quand même pas très très bon. Alors oui, il y a quelques séquences d'action qui sauvent un peu le truc, qui valent le détour, mais c'est à peu près le seul intérêt du film. Vraiment pour le reste, je me suis bien fait chier. Même la version jeune de Will Smith, hein, c'est très Uncanny Valley, alors que bon, on a vu qu'on était capable de faire des rajeunissements propres, hein, on a vu ce qu'a fait Marvel Studios dans le domaine, hein, donc on sait qu'on peut le faire, donc là ça sent un peu le manque de moyens. Le film sort le 2 octobre, donc c'est mercredi prochain. Pourquoi je voulais en parler ? Parce que je voulais pousser une gueulante sur la 3D Plus HFR 60. Est-ce que tu en as déjà entendu parler ? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de voir des films dans ce format ?
Déjà, non, mais le nom me fait flipper là. Qu'est-ce que c'est que ça encore ?
Alors c'est de la 3D, donc à la base, avec en plus du HFR, donc c'est du High Frame Rate, et Et du high frame rate, c'est...
Non !
Voilà, c'est du 60 FPS. Le film a été tourné en 120 FPS et il est diffusé en 60 FPS. Je te laisse deviner ce que ça entraîne comme effet dégueulasse. On l'a tous
l'effet
sur nos télé.
Soap opera.
Voilà, exactement. Et c'est insupportable. Enfin, moi, vraiment, ça m'a sorti du film. Donc, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas accroché. Alors, on va vous rappeler très vite hein, ce que c'est l'effet soap opera. Donc, c'est au lieu d'avoir un film en 24 frames par seconde, comme c'est le cas d'habitude, on l'a en 60 frames par seconde. Donc, ça veut dire qu'on a la même fréquence, la même vitesse que pour un soap opera, qui sont eux filmés en vidéo et en 60 fps. Et donc, ça donne un effet vraiment très bizarre. On a l'impression je sais pas comment décrire ce phénomène. En fait,
t'as l'impression que c'est filmé en vidéo dégueulasse.
Oui, c'est ça.
C'est
exactement.
Une telenovelas brésilienne filmée avec un caméscope de merde.
Voilà. Il y avait déjà eu une polémique à ce sujet-là quand The Hobbit était sorti lui aussi en HFR. Et donc, je vous confirme qu'après avoir vu Gemini Man, je vois pas du tout l'intérêt, en fait. Enfin, l'image est plus fine, plus lisse. Effectivement, on voit mieux certains détails, surtout quand ça bouge. Mais en fait, ça vaut pas la peine par rapport à cet effet dégueulasse qu'on se prend dans la gueule pendant tout le film. Et où vraiment, moi, ça me sort du film. Quoi. J'ai l'impression de voir un film amateur où les mecs se sont fait plaisir en filmant un truc au caméscope ou voir au téléphone. Donc, je comprends pas l'intérêt de cette technologie. Je sais pas si c'est parce
Attention,
qu'elle est pas au point.
Non, c'est très au point. Et je te coupe pour rappeler à tout le monde que c'est un truc que vous avez d'activer par défaut sur les trois quarts des télés numériques, toutes les télés de l'écran plat de la Terre, tous les LCD, OLED, etc. Tout le monde, par défaut, quasiment tous les constructeurs activent un effet qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, le lissage en fait.
Ça dépend des marques en fait.
Chaque marque a son nom pour cette saloperie. Et il y avait même eu une vidéo, je sais plus qui c'était Schwarzenegger ou Stallone ou... Enfin, un acteur ultra... Non, Tom Cruise. C'était Tom Cruise qui avait fait une vidéo pour faire...
Oui, pour dire de ne pas regarder son film dans ce format-là.
Voilà, ouais. En disant « Désactivez-moi cette merde et voilà, et soyez... » Et en fait, c'était très drôle puisqu'il disait « Dès que vous allez chez quelqu'un, dès qu'il va aux chiottes, vous le désactivez, vous trouvez le menu et vous virez ce truc. » Et ça, c'est un mode, en plus, qui déconne à mort avec tout ce qui est console de jeu, etc. Donc, sur des télés, il y a des télés où c'est pas vraiment désactivable. Enfin, tu crois que... Donc, vous pouvez passer en game mode. Et quand vous passez en game mode, généralement, ça vire toutes ces saloperies. Et c'est vraiment une horreur. Moi, je supporte pas non plus.
Mais ce que je comprends pas, c'est que sur les télés, c'est de l'extrapolation, puisque tu sais, ça interpole, en fait, ça extrapole les images qui n'existent pas. Alors qu'au cinéma, là, ça a été filmé en 120 fps, ça a été réduit en 60 fps. Tu te dis, ça devrait mieux fonctionner.
Non, mais l'effet est le même, en fait.
Enfin, voilà, c'est ça.
C'est la finalité pour tes yeux et ton cerveau, ça fait la même chose. Et autant dans nos jeux vidéo, on est très content d'avoir des trucs qui vont très vite, autant sur des mouvements de vidéo, il se passe des trucs. Alors, il y a des papiers qui expliquent en long, en large pourquoi ça fait ça. Je n'ai pas la prétention de pouvoir le réexpliquer dans un podcast en 3 secondes, mais on en parlera sur le forum. Venez balancer vos infos et vos impressions sur le forum, sur les commentaires qui accompagnent le podcast. Mais très honnêtement, voilà, c'est juste insupportable et je comprends pas que les mecs continuent d'essayer de nous infliger ça. J'ai trouvé dans mes recherches, j'ai eu d'ailleurs beaucoup de mal à finir le repas avec cette personne, quelqu'un qui m'a dit « Ah, moi, je préfère quand c'est activé. »
C'est horrible.
T'as envie de te lever et de faire genre « Eh bien, c'est fini entre nous !»
Je vous linkerai la page Wikipédia du HFR, comme ça vous pourrez avoir tous les détails techniques sur le pourquoi comment, enfin le comment on sait, le pourquoi je comprends toujours pas, donc bref. On va passer du côté de la tech avec un site qui s'appelle LZ Playnet, c'est quoi ça donc ?
Ah là là, c'est génial, c'est un truc qui fait parler de lui actuellement, car comme tu le sais, il y a les téléphones Huawei Mate 30 qui sont sortis, et comme tu le sais, Huawei et les États-Unis ça se passe vachement bien en ce moment, donc les nouveaux téléphones Huawei ne disposent d'aucune application Google sur le téléphone, et en plus ils sont protégés, donc tu ne peux pas ruser pour forcer l'installation comme on le fait souvent avec Android en essayant de bidouiller un ou deux trucs et pas mettre en danger la sécurité de ton téléphone. Et du coup, il y a des tutos sur internet qui popent de partout en provenance de plein de sites de ménestrels de la tech qui ne se renseignent pas beaucoup, il faut le dire, et qui te disent ouais, mais c'est pas grave parce qu'en fait, grâce à ce super site, donc le fameux lzplay.net, on peut installer tous les trucs et c'est en 3 clics, ça se fait, c'est génial, il suffit de faire suivant, c'est génial, et surtout lisez pas les cases quoi, donc je confirme. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vous link évidemment le billet d'Ars Technica qui explique à quel point il faut pas du tout faire ça, et n'achetez pas téléphone Huawei pour l'instant, point, enfin je veux dire si vous avez besoin des outils Google, fin d'histoire. Hein. Pourquoi ? Parce qu'en fait LZPlay se repose sur une techno qui existe depuis très longtemps, qui est en fait une techno qui te permet de gérer des flottes de téléphones en entreprise,
Android. Et du coup, tu leur donnes tous les droits de ton téléphone pour pouvoir installer ce que tu veux. D'accord ? Donc, les mecs, en fait, ont un accès remote complet à ton téléphone quand tu installes cette saloperie. C'est une excellente idée, évidemment. Donc, ça veut dire que les mecs ont accès non seulement aux apps qui sont installées sur ton téléphone, mais ils peuvent aussi en désinstaller comme ils veulent, ils peuvent en réinstaller comme ils veulent, ils ont accès à tout ton carnet d'adresses, à tout ce que tu fais sur ton téléphone, où tu es localisé. La totale, les mecs ont donc accès à tout. Et donc, là, tu te dis, bah, c'est pas grave, parce que peut-être c'est des gentils, mais on n'en sait rien, en fait, parce que c'est un site qui a été créé il y a 3 mois en Chine et personne n'est capable de te dire qui est derrière. Et donc là, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui se disent « Mais moi, je veux Google Maps, alors je vais passer par ce truc. » Ben, vous êtes des génies, les mecs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc déjà, ces gens méritent de se faire pirater, hein, y a pas de problème. Mais du coup, ce truc, n'y allez pas, c'est un scandale. Si vous avez des gens qui vous en parlent ou qui vous disent « Bah, j'ai un téléphone Huawei, mais je peux pas installer un truc. » Bon, déjà, ça veut dire qu'ils ont acheté un téléphone Huawei cher parce que le Mate 30, c'est pas un truc à 100 balles. Et qui, en plus, derrière, sont prêts à installer n'importe quoi sur leur téléphone pour avoir une app Google. Alors qu'ils savaient très bien que ça ne serait pas disponible. Donc, je vous laisse lire le papier de nos amis d'Ars Technica sur le sujet. Il est très complet et très flippant et très clair dans le sens où n'allez pas utiliser cette merde. C'est pour ça qu'il fallait en parler aujourd'hui.
Et puis, des news du côté de Microsoft.
Oui, alors eux, par contre, ils sont très en forme. Ils ont fait une grosse conf pour annoncer plein de trucs autour de leur univers hardware avec, évidemment, en tête de pont, plein de Surface. Alors, on se disait, c'est très cool, les Surface, il n'y avait rien d'hyper étonnant au départ, tu vois, on a du Surface Laptop 3, c'est de la déclinaison et de l'évolution de ce qu'on connaît déjà. Je vous link des papiers qui résument tout ça chez Numérama et Ars Technica. On retrouve aussi la Surface Pro 7 qui vient grappiller un petit peu, continue de grappiller le marché des tablettes hybrides entre le PC, la tablette, etc. Et de bonne manière, franchement, si vous êtes dans l'univers Windows, c'est des produits, ils ont eu un quoi. Je sais plus si c'était la 4 ou la 5. Enfin, il y en a une qui n'était pas très réussie, mais là, apparemment, ils ont repris le droit chemin. Ils ont annoncé aussi un truc que je trouve assez moche, mais en même temps, ayant des AirPods, et je sais qu'il y a des gens qui supportent pas la gueule des AirPods, donc ça me fait marrer. Mais là, donc, ils ont sorti les Surface Earbuds, qui, en fait, t'as l'impression d'avoir des espèces de bouchons dans les oreilles avec une grosse plaque, en fait, sur les côtés.
Oui, j'ai vu, ouais.
Et donc, pourquoi ? Parce que la surface ronde qui sort de votre oreille, et on a vraiment l'impression que vous avez un appareil auditif, pour le coup, c'est un truc tactile, donc c'est pour pouvoir avoir les commandes directement dessus. Ça va sortir fin 2019 et ça va coûter $249. Les autres tablettes, il y a tellement de configs que je vous passe les prix, vous irez voir sur le net, mais c'est entre $1000 et la Surface Pro 7 commence à $750. Toujours, c'est tout. Rappelez-vous, quand je dis ces prix-là, c'est les prix hors taxe. Arrêtez de flipper quand vous voyez les prix français à la fin, c'est normal. Vous venez de prendre 20%, déjà, c'est cadeau. Donc ça, la Surface Pro 7, quand même, je vous dis qu'elle sort le 22 octobre 2019. Mais c'est pas ça qui était vraiment intéressant. Ce qui était super intéressant, c'est ce qu'ils ont annoncé au niveau prototype. Et là, ils étaient vraiment en méga forme. Ils ont annoncé plein de trucs qu'on n'attendait pas vraiment. Donc, il y a un concept qui s'appelle le Microsoft Surface Neo, qui est en fait une espèce de double tablette. Donc au lieu de se faire chier avec un écran pliable, ils ont carrément mis une charnière au milieu. Mmh. Et tu as deux écrans côte à côte avec un clavier magnétique. Il y a plein de vidéos de présentation beaucoup mieux foutues que ce que je pourrais vous dire dans un podcast. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir un Windows adapté qui vous permet en fait d'exploiter ces deux écrans on the go avec un clavier magnétique qui en plus vous permet soit de l'avoir devant vous et vous pouvez poser comme un livre ouvert la tablette et avoir les deux écrans devant vous verticaux. Ou alors, vous pouvez carrément avoir la tablette devant vous avec le clavier magnétique posé sur un des écrans, et en fonction de l'endroit où vous le mettez sur l'écran, ça sera... Si vous le mettez vers le haut, vous avez un trackpad, en fait, qui va apparaître sur l'écran en bas, donc comme si vous pouvez avoir votre souris, quoi. Et si vous descendez le clavier, vous avez une touch bar, comme chez Apple, si tu veux. Alors, je sais plus comment ils appellent ça chez Microsoft, j'ai oublié le nom, mais c'est beaucoup plus grand, donc c'est beaucoup plus utile que la touch bar d'Apple qui... comment dirais-je ? J'en ai jamais dit du bien, donc je vais pas commencer aujourd'hui, quoi. Et l'idée est vraiment intéressante, et apparemment en termes d'usage, les prototypes étaient très avancés, mais bon, pour l'instant, on sait juste que ça sort fin 2020, on n'a pas de tarif, et il faut voir ce qu'ils vont réussir à faire en termes d'application. C'est pour ça que les protos ont été présentés aussitôt, c'est pour essayer de convaincre les éditeurs d'applications de revenir sur Windows. Je vous rappelle que Windows, bah, ils ont des parts de marché tarées, mais il y a très peu de petits éditeurs ou d'éditeurs, on va dire taille moyenne, qui font des applications comme on a dans l'écosystème iOS ou dans l'écosystème macOS. Et c'est vraiment le point faible de Windows actuellement. Si vous allez sur le store, il n'y a rien d'intéressant. Enfin, il n'y a même pas un pauvre qui est en Twitter à installer. J'utilise un truc qui n'a pas été updaté depuis 2 ans. C'est une catastrophe, vraiment. C'est horrible. Il y a zéro support. Les gens ne gagnent pas d'argent avec ça parce que les utilisateurs Windows, bah, il y a des grandes parts de marché, mais c'est beaucoup d'entreprises, etc. Et finalement, il n'y a pas de thunes, quoi. Les gens ne dépensent pas d'argent. Et donc, le concept de ce dual screen, là, pour revenir sur nos surfaces, il a été décliné dans un autre produit qui s'appelle la Surface Duo. Alors ça, c'est un peu bizarre comme produit, mais c'est un truc qui est a priori basé sur Android, si j'ai bien compris. C'est 2 écrans pliants de 5,6 pouces et qui, en fait, me rappelle vachement le concept du téléphone LG, qui est un faux dual screen qu'ils ont sorti, mais pareil, avec une charnière au milieu. Le but du jeu étant d'avoir un truc, par exemple, où tu peux avoir ton jeu sur l'écran du haut et des trackpads virtuels sur l'écran du bas, mais du coup, tu vois ce que tu fais, ce qui n'est pas le cas dans les jeux mobiles actuellement. Il y a plein d'usages qui sont possibles. Tous les gens qui ont vu le prototype étaient assez impressionnés de ce qu'ils avaient réussi à faire. Donc voilà, je vous link tout ça. Il y a des vidéos, il y a des vidéos de MKBHD qui était carrément, lui, dans les labos, because Big Star. Donc lui, il a visité ça il y a 15 jours et il a eu une présentation par le boss de Microsoft. Il y a même aussi un truc dont je ne vous ai pas parlé, qui est la Microsoft Surface Pro X, qui est en fait un modèle avec une architecture mobile encore un petit peu différente, mais bon, on en reparlera quand ça sera sorti, parce que c'est pareil. Ça, c'est des trucs qui vont sortir là maintenant. La Surface Pro X, ça sort le 5 novembre 2019 pour 1 000 $, mais j'attends d'avoir des tests en fait, parce que je me rends pas compte de la puissance que ça peut avoir finalement, parce que c'est des processeurs ARM qui sont à l'intérieur, qui ont été faits sur mesure par Qualcomm. On essaye de retrouver chez Microsoft un peu de souplesse au niveau hardware, mais ils n'ont pas leur propre division comme Apple pour faire leur propre processeur, donc ils ont fait un deal avec Qualcomm pour avoir ce truc-là.
Et du coup, si j'ai bien suivi, il y a aussi un nouvel OS, une nouvelle version de Windows 10 qui s'appelle Windows 10 X, c'est ça?
Ouais,
ça,
exactement. En fait, okay. ils ont fait un truc qui est assez bizarre, c'est qu'à part la Duo qui, elle, tourne sous Android, tous les autres trucs tournent avec des versions de Windows qui sont basées sur un cœur quand on parle de Linux, t'as vraiment la base de Linux et puis tu peux empiler les couches, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Chez Apple, t'as une espèce de cœur pareil, mais iOS, c'est le même cœur que macOS au final. Alors, très modifié derrière, plus tu montes dans les couches et plus c'est différent, mais le cœur du truc est la même chose. Donc, ils essayent de faire la même chose avec Windows pour pouvoir décliner les applicatifs facilement entre les différents devices parce que sinon, les développeurs, ils vont faire dire non, t'es gentil, mais j'ai pas envie de faire 5 fois la même app, surtout pour faire 2 ventes sur ton nouveau truc là. Donc voilà, donc je vous link tous ces papiers, c'était hyper intéressant. Moi, le problème que je vois à chaque fois, c'est comme quand ils ont présenté en grande pompe la Surface Studio qui a impressionné tout le monde. Au final, on n'a pas les chiffres, mais je pense qu'ils ont vendu 4,5. Et c'est des produits qui sont hyper intéressants. La Surface, c'est quand même bien imposé sur le marché, mais sur les prototypes, là, j'espère qu'ils ont pensé à aller vraiment draguer, et avec un carnet de chèques de préférence, les éditeurs de jeux, les éditeurs d'applications, etc., etc. Parce qu'il n'y a rien sinon. Enfin, je veux dire, si c'est pour faire du Word et du Excel, génial. Mais le problème de Windows actuellement, c'est qu'il n'y a pas toutes les petites apps sympas que l'utilisateur iOS aime avoir sur son téléphone ou sur son iPad, etc.
Non, et puis surtout des apps qui sont prévues pour ton hardware,
bien sûr,
quoi. Qui tournent bien avec les bons écrans, enfin, les bons machins, les bons ratios, tout ça.
Qu'il exploite à mort. Donc là, en plus, comme ils ont prévu des stylets, des trucs, le matos, ça a l'air vraiment super sexy, hein. C'est ultra fin. Donc tout le monde flippe de l'autonomie côté batterie et tout. Mais voilà. On attend de voir ce que ça va donner, mais on attend de voir surtout s'ils vont réussir à convaincre les développeurs de les suivre, parce que c'est ce qui a tué pour l'instant tous les projets de Microsoft hors Surface, puisque Surface, finalement, les gens l'utilisent comme un portable glorifié. Donc voilà, c'était intéressant, mais maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre et à voir si ça suit derrière.
Alors, histoire d'assurer la balance cosmique, après avoir dit du bien de Microsoft, tu voulais leur mettre un petit taquet quand même?
Ouais, parce que j'ai rigolé sur un truc, sur les dernières versions depuis le patch 19.03 de notre ami Windows 10. Les gens se sont aperçus qu'en fait, quand tu l'installais de zéro sur une bécane, il n'y avait plus moyen de faire un compte local, en fait. Et les mecs étaient un petit peu vénères. Ça veut dire que Microsoft te force à faire un compte sign in with Microsoft, tu sais, donc avoir ton compte en ligne avec Microsoft. Et puis, c'est tout, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de menu, il n'y a rien pour virer le truc et te dire non, mais moi, tu m'emmerdes. Je veux juste faire un acompte sur mon PC et puis tu me laisses tranquille. Alors en fait, le truc et la blague, c'est que évidemment, c'est toujours là. Tu peux toujours le faire, mais pour que le menu réapparaisse, eh ben, il faut complètement te déconnecter du net. Donc il faut couper le Wi-Fi, il faut déconnecter ton câble Ethernet si t'as un câble Ethernet. Et là, comme par magie, ah, ça va te faire ah, oh, bah ça marche pas, tu veux vraiment faire un compte ? Oui, s'il te plaît. Et là, boum, le menu arrive. Donc je vous linkerai le papier d'How2Geek qui explique comment faire ça, mais ça m'a fait marrer parce que vraiment c'est, enfin, tu vois, c'est du forçage de main de gagne petit. Ouais. Le menu est toujours là, tout est là, laissez-nous tranquille quoi.
Bah surtout qu'en fait tu peux même aller rebasculer vers un compte local une fois que t'as installé Windows, en fait, ce qui est vraiment paradoxal quoi. C'est-à-dire qu'on t'oblige pour l'installation à le faire avec un login mot de passe, et une fois que Windows est installé, tu peux aller dans les settings et dire ouais, en fait finalement je veux un compte local, ce qui est encore
à
une
vérifier,
fois
là, avec le 19.3, je sais pas si tu peux encore.
Si, et puis enfin moi ça me dérange pas parce que la majeure partie des services Microsoft qui sont intégrés dans Windows et que moi j'utilise comme le l'agenda ou la météo, ce genre de trucs là, t'impose d'avoir un compte Microsoft pour pouvoir y accéder. Donc c'est pas très très grave, et au final moi je suis passé sur un compte Microsoft à terme.
Ah, mais moi aussi.
Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, et c'est encore une fois une de ces logiques incompréhensibles de la part de Microsoft où on te planque un truc mais on te donne quand même accès après. Mais enfin c'est effectivement un peu zarbi, et c'est peut-être encore une fois toujours la même problématique avec Microsoft, c'est que toutes ces briques d'OS sont développées dans différents départements qui manifestement communiquent pas très bien les uns avec les autres. Et
pourtant maintenant ils ont Microsoft Teams, ils devraient. Ouais. Ouais. Non, voilà. Mais blague à part, je disais, enfin, moi j'ai rien contre le login Microsoft de base, mais la méthode employée et la façon de faire, elle est juste ridicule. Donc voilà, sachez que si vous avez besoin de le faire, c'est toujours possible. Voilà, il suffit de débrancher le net et vous allez récupérer le truc. Voilà, mais bon, nous on les aime bien, hein, Microsoft, mais ça serait bien que de temps en temps ils soient un petit peu plus malins quand même.
Et c'est la fin de cet épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine 8h pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, on va aller se reposer un petit peu.
Non,
d'accord. Bon, on va retourner travailler alors.
Non, enfin toi peut-être, mais non. Ouais. Moi j'ai une présentation à terminer pour dimanche, parce que le dimanche c'est le jour des vainqueurs. Et puis je te rappelle que j'ai un Mac à cramer, donc que je récupère demain et que je vais réinstaller, car comme vous le savez, je passe mon temps à vous dire faites des backups. Les backups, c'est la vie, c'est hyper important. Et évidemment, ce Mac, je n'avais pas complètement fini d'installer, mais presque. Je m'étais dit je vais le faire ce week-end. Et il est mort le vendredi d'avant. Voilà, donc il faut que je réinstalle tout de zéro. Je suis hyper content.
Eh bien, bon courage, mais bon week-end quand même.
Ouais, ça va être super. Je m'éclate. Voilà, comme on perd sa vie, je vous jure. Je suis dégoûté. Ne faites pas comme moi, faites des backups.
Allez, bon week-end. Ciao.
Ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.